30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à l'athlétisme sud-africain. Les Jeux de Barcelone en 1992 sont marqués par le grand retour de l'Afrique du Sud, écarté du concert sportif international depuis 1964 en raison de sa politique d'apartheid. En finale du 10 000 mètres féminin, la victoire se joue justement entre Elena Meyer, une sud-africaine blanche, et Dehartu Tulu, une éthiopienne noire. Tout un symbole. Elena Meyer imprime une forte cadence et seule l'éthiopienne s'accroche. Mieux, juste avant le dernier tour, Tulu double Meyer, accélère et s'impose avec 30 mètres d'avance. Elle devient la première athlète d'Afrique noire championne olympique. Les deux femmes tombent alors dans les bras l'une de l'autre et font un tour d'honneur. Cette image a marqué les esprits. Cette course va donc faire l'histoire. Elena Meyer supplante en 1992 une autre Sud-Africaine, Zola Budd, la coureuse aux pieds nus, qui apparaît sur la scène internationale en 1984 en battant le record du monde du 5000 mètres. Zola Budd participera aux Jeux Olympiques de 1984 sous les couleurs du Royaume-Uni. En finale du 3000 mètres, Zola Budd fait tomber la favorite américaine Mary Decker et finit 7e de la course sous les huées du public américain. De son côté, Dehartu Tulu, la reine de Saba, inaugure le triomphe féminin éthiopien sur le fond avec l'avènement de stars comme sa cousine Tirinej Dibaba, championne, double championne olympique 5000-10000 à Pékin 2008, ex-détentrice du record du monde du 5000, en 14 minutes, 11 secondes, 15 centièmes, ou Meseret Defar. Symbole de la fin de l'apartheid, le petit Africain Josiah Tougané gagne le marathon d'Atlanta 1996 en 2 h 12 minutes 36 secondes, devançant de 3 secondes le Sud-Coréen Bonju Liu et de 8 secondes le Kenyan Eric Wainaina. L'Espagnol Martin Fiz, champion du monde en titre, finit 4e. Jamais en un siècle, les écarts n'avaient été aussi minces à l'issue d'un marathon olympique. Josiah Tougané, 25 ans, 1m58, 45 kg, lunettes de triathlète, a renforcé la fierté et la confiance de la nation sud-africaine un an après la victoire en rugby des Springboks à l'Ellis Park de Johannesburg devant les All Blacks néo-zélandais sous les yeux de Madiba, Nelson Mandela. Il est né le 15 avril 1971 à Bétal, à 200 km à l'est de Johannesburg, la plus grande ville du pays. Il n'a pas échappé durant son enfance à un destin de mineur de charbon. Il aime le football, il ne fréquente pas l'école. Il ne sait ni lire ni écrire, mais sa volonté et son assiduité à s'entraîner en solitaire à la tombée de la nuit autour des sites industriels de son quartier intrigue un Anglais, Tony Langers, qui s'intéresse à l'athlétisme et qui deviendra son entraîneur. Tougané comprend très vite qu'il peut vivre de la course à pied. Le rêve olympique a bien failli s'évanouir au mois de mars 1996. Alors qu'il rentrait chez lui en camionnette, il s'arrête pour prendre 3 autostoppeurs, en fait des malfaiteurs, qui en veulent à son véhicule. Tougané oppose une résistance à ses agresseurs, mais ces derniers lui logent une balle dans la mâchoire et le laissent pour mort sur le bord de la route. Rétabli, il rejoindra Atlanta après un passage dans un camp d'entraînement au Mexique, à 1500 mètres d'altitude. L'Afrique du Sud est un pays de 56 millions d'habitants, répartis en 80% de Noirs, 10% de Blancs, 10% de Métis et d'Asiatiques, capitale Pretoria, plus grande ville, Johannesburg. Superficie de 1 200 000 km², soit 2,5 fois la France. Au départ, colonie franco-néerlandaise en raison de l'exil des protestants chassés d'Europe, elle est devenue colonie britannique en 1806. S'ensuivent des guerres avec les populations d'origine, la guerre des Boers. Les années 1960 marquent l'indépendance du pays. L'Afrique du Sud est souvent appelée « nation arc-en-ciel », notion inventée par l'archevêque Desmond Tutu pour désigner la diversité de la nation sud-africaine. C'est sa grande chance, mais il se dit aussi que depuis 1994, plus d'un demi-million de Blancs ont quitté le pays. On se souvient, en 1976, des émeutes de Soweto contre l'enseignement obligatoire en africain. Le gouvernement déclare l'état d'urgence. En 1990, le nouveau président sud-africain, Frédéric de Klerk, légalise l'ANC, le Parti communiste sud-africain, et tous les mouvements noirs, Nelson Mandela, est libéré. En 1991, le gouvernement abolit les dernières lois de l'apartheid. Les premières élections multiraciales de l'histoire du pays sont remportées par l'ANC. Nelson Mandela devient le premier président noir du pays. Si l'Afrique du Sud est la première économie du continent africain, représentant un quart du produit intérieur brut de l'Afrique, elle bat néanmoins des records en matière de criminalité. On y compte environ 20 000 meurtres par an, 30 000 tentatives de meurtre, plus de 50 000 viols. Presque tous les habitants d'Afrique du Sud ont une fois dans leur vie fait l'expérience directe de la criminalité et de la violence. La corruption y est aussi active. L'affaire Oscar Pistorius, du nom du premier athlète médaillé parmi les valides, The Blood Runner, l'homme aux lames, condamné pour le meurtre de sa compagne et dans toutes les têtes. En 2013, Oscar Pistorius a été condamné à 6 ans de prison ferme. En 2013, décède Nelson Mandela, dit Madiba, le père de la nation sud-africaine, à l'âge de 95 ans. Aujourd'hui, les descendants de Mandela se déchirent au sein de l'ANC, le parti fondé par Mandela. Y aurait-il un rêve trahi de l'Afrique du Sud? L'auteur sud-africain André Brink, prix Médicis étranger 1980 pour une saison blanche et sèche, réaffirme son droit et sa volonté de continuer à vivre en Afrique du Sud. « Je partage avec d'autres, noirs, bruns, blancs, cet endroit de la terre où ma mère et mon père sont enterrés, et mes grands-parents et leurs ancêtres, depuis des générations et des générations. Cela signifie que nous nous sommes assimilés par près de 4 siècles de vie sur ce continent, et qu'en retour nous avons assimilé ces siècles dans nos os et notre sang. Les rythmes de sécheresse et d'inondation, les famines et l'abondance, les cruautés inhumaines, et les meurtres et les privations, les rives, les rires et l'amour, la pitié, la générosité, tout ceci a un prix, et nous l'avons payé parfois de mauvaise grâce, ou même avec ressentiment, souvent avec joie et bonne volonté. On peut voir sur le drapeau sud-africain les couleurs suivantes. Le noir, le jaune, le vert, le blanc, le rouge et le bleu. Le noir, le vert et le jaune sont les couleurs traditionnelles des mouvements noirs africains. Mais des représentations spécifiques de chaque couleur sont avancées. Le bleu, qui représente le ciel et les fleuves. Le vert, représentant la terre africaine à perte de vue et l'agriculture. Le blanc, les natifs à la peau claire et qui sont européens, et aussi pour la paix. Le noir, explicitement la population noire, en question, et pour la force. Le jaune, la richesse aurifère du pays et les minéraux en abondance. Le rouge qui représente le sang versé lors des affrontements entre noir et blanc, si l'on regarde bien, un motif est mis en exergue sur le drapeau. La lettre Y, elle représente la jonction des divers éléments de la société sud-africaine, mais qui prennent la route à l'unisson. La nouvelle star de l'athlétisme sud-africain s'appelle Wayde van Niekerk, 1m83, 72 kg, 25 ans, actuel recordman du monde du 400 mètres. Impressionnant. Juste un record du monde en 43 secondes, 3 centièmes, en remportant le titre à Rio 2016, améliorant les 43 secondes, 18 centièmes de l'extraterrestre Michael Johnson, réalisé en 1999, au siècle dernier. Dans le panthéon de l'athlétisme sud-africain, il vient effacer Oscar Pistorius et surtout Caster Semenya, la spécialiste du 800 mètres, champion du monde à Berlin 2009, vice-champion olympique à Londres 2012, porte-drapeau de l'Afrique du Sud. Renaissance de Caster Semenya. Elle a décroché sur 800 mètres féminin de Rio 2016 la médaille d'or. La Sud-Africaine l'a emportée en 1 minute 55 secondes 29 centièmes. Elle a devancé la Burundaise Francine Niyonsaba et la Kenyane Margaret Wanbi. Mais elle ne peut plus participer à des compétitions sur sa distance de prédilection, le 800 mètres, en raison d'un nouveau règlement de la Fédération internationale d'athlétisme concernant le taux de testostérone des athlètes. La Fédération internationale estime que les femmes hyperandrogènes qui produisent naturellement cette hormone masculine ont un avantage en compétition sur leur adversaire. Son histoire a été adaptée au théâtre par Léa Girardet. Libre arbitre, ou l'histoire de cette championne sud-africaine à qui les hommes ont reproché de n'être pas assez femme. La comédienne s'est fait repérer avec le syndrome du banc de touche, un solo dans lequel elle comparait le sort des footballeurs remplaçants du Mondial 1998 avec celui des actrices au chômage. Elle a bifurqué vers l'athlétisme. L'histoire des femmes soupçonnées d'être trop viriles est aussi vieille que le sport moderne. Mais celle de Caster Semenya est la plus emblématique. Médiatisée, feuilletonnée, c'est aussi une histoire d'aujourd'hui. Caster s'est soumise avant de se rebeller et de poursuivre la Fédération internationale d'athlétisme devant les tribunaux pour discrimination. Sa carrière internationale est sans doute finie. Elle en a beaucoup pâti, mais sa lutte va servir à d'autres. Caster est devenu l'emblème de tous les combats, féministes, tiers-mondistes, mais aussi LGBTQIA, lesbiennes, gays, bisexuels, trans, queer, intersexes et asexuels. 6 ans après son enquête sur son identité sexuelle qui l'avait blessée, Caster Semenya a peut-être tourné la page, mais son grand retour aux Mondiaux de Pékin 2015 avait été un échec. Elle a fini dernière de sa demi-finale. Son projet de battre le plus vieux record du monde à l'athlétisme de plein air, le 800 mètres féminin, détenu depuis 1983 par la Tchèque Jarmila Kratochilova en 1 minute 53 secondes 28 centièmes, avait pris du plomb dans l'aile. Sa nouvelle entraîneuse depuis 2011 est la Mozambicaine Maria Mutola, triple champion du monde et championne olympique sur 800 mètres de Sydney 2000. Elle aussi avait également été stigmatisée dans les années 1990 pour son physique masculin. Caster Semenya n'est plus revenue au premier plan, par exemple à Tokyo 2020, où elle comptait s'aligner sur le 200 mètres. Sa motivation est donc de préparer la suite de sa vie, en particulier celle de permettre aux enfants sud-africains les plus défavorisés d'avoir accès à des équipements sportifs. La nouvelle mission de Caster Semenya, celle d'aider les autres.
C'était la chronique de Gilles Labourroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.